Des yeux trop bleus, de Mira Magen. Une vieille dame excentrique et ses trois filles vivent et évoluent dans un vieil immeuble d'un quartier pittoresque de Jérusalem. Un jeune homme s'efforce de les convaincre de vendre la maison à un requin de l'immobilier. Nous pénétrons avec lui dans le monde étrange de cette femme qui joue la folie pour demeurer lucide. La sécurité sociale va-t-elle découvrir l'imposture et faire expulser l'aide roumaine qui assiste Hana Ion? Cette histoire évoque en filigrane la cruauté du temps qui passe. Chacun des personnages lutte contre la montre pour assouvir son besoin d'aimer et de vivre. Chacun d'entre eux se caractérise par un mélange d'égoïsme et de générosité, de naïveté et de cynisme. Le dénouement est prenant et surprenant. Chapitre 1. Ce soir encore, on avait gribouillé quelque chose sur le mur de la maison. Johanna mit ses bottes de caoutchouc, tira le tuyau sur le trottoir et se mit en devoir d'asperger la muraille. Elle remarqua un étranger qui la regardait de l'autre côté de la rue. Elle lui tourna le dos et se promit de ne pas lui adresser la parole. S'il l'accostait, elle ferait la muette. L'eau chassa au loin les graffitis à l'éloge du rabbin N, Na, Nar, Narm, Narman. Des flocons de couleur furent engloutis par la bouche d'égout. Elle n'abandonnait pas le mur, elle lançait contre lui des trombes d'eau et frappait toute saillie et toute anfractuosité. La propriétaire et ses filles avaient l'habitude. 10 centimètres de béton seulement les séparer de ce monde sans foi ni loi. Un point de ciment les protégeait des haïsseurs de la pierre, des libations des pisses au mur et des vomissures des ivrognes. De ses mains sales, la rue tripotait leur maison, mais elle demeurait insouciante et indifférente à ce qui leur passait sous le nez. Aux nombreux regards qui se posaient toujours sur la maison s'ajoutaient maintenant ceux de l'étranger, dont les grosses lunettes cachaient les yeux et ce qui se passait derrière eux. Johanna avait bien fait d'étendre 3 chemises rouges sur la corde à linge du 2e étage. 3, c'était plus qu'il n'en fallait pour lutter contre le mauvais œil. Les rayons du soleil luisaient déjà presque à l'horizontale. Ils coupaient le ciel en deux et lui faisaient une auréole pesante au-dessus de la ruelle. Johanna donna une ultime pression au tuyau et lâcha un dernier jet. Elle se dirigea vers le portail, constata du coin de l'œil que l'homme était encore à sa place, entra et claqua bruyamment le battant derrière elle. Un tourbillon d'écume l'accompagna jusqu'à ce qu'elle eût fermé le robinet. L'étranger attendit qu'elle disparût. Il traversa la rue et contempla la cour et la maison. Il pensait « Vache de bicoque, il y a de quoi se ranger pour toute la vie » à condition que la vieille flanche et vende. Il avait 6 mois devant lui pour la faire réfléchir et fléchir. C'était la chance de sa vie. S'il achevait sa mission, il serait plein aux as. Mais s'il lâchait en route, c'est lui qui devrait casquer. Ramper pendant 6 mois comme un serpent sous la soupente, quel sale boulot! Mais il avait accepté et il avait signé. Il avait besoin d'argent. Il observa les bâtiments avoisinants. Partout, on remarquait un balcon rapporté, une mansarde nouvelle, une fenêtre fraîchement bouchée ou nouvellement ouverte, un entrepôt suspendu au toit. Les gens avaient attrapé des poches d'air et en avaient fait des locaux. On avait planté des fers dans le mur pour y battre les matelas. Dans les jardinières accrochées au mur, on cultivait des cornichons en bocal. On avait planté des crampons dans les poutres pour y suspendre des vélos d'enfants et des poussettes. L'homme se sentit étouffé. La sueur lui couvrait le front. Il ouvrit un bouton de sa chemise. 6 mois devant lui. Le compte à rebours avait déjà commencé. Brouge y voulait mettre ses bulldozers en marche le 1er février. L'homme avait un drôle de mal de tête. Il n'aimait pas les coins que la vie aurait dû quitter depuis longtemps. Il craignait le temps qui pond ses œufs dans les fissures des murs et les couves, en attendant qu'il en sorte des morts qui reviennent à la vie et vous demandent une cigarette. Soudain, le vent se leva et fit danser les chemises rouges sur leurs cordes. L'air s'emplit un moment de feux follets rougeâtres. Il attendait, espérant que le vent allait frapper les volets, les secouer et les ouvrir, en lui montrant, au moment où ses mains viendraient décrocher ses vêtements, la femme qui les portait, les lavait et les étendait. Mais le store ne s'ouvrit pas. Le vent cessa et les manches rouges retombèrent inertes. Il allait pousser le portail quand une fenêtre s'ouvrit au 2e étage. Une petite fille sortit la tête et il sentit le choc d'un noyau de pêche humide sur son crâne. « Tu l'as fait exprès ? » demanda-t-il en levant vers elle ses grosses lunettes tout en essuyant la pulpe juteuse sur sa calvitie naissante. « Oui !» répliqua l'enfant en faisant sauter les cordes à linge dans sa main. « Tu es un peu effrontée, tu sais ?»«
Je suis beaucoup effrontée, pas un peu !»
fit-elle en lui tirant la langue. Un 2e noyau atterrit dans la rue à un pas de lui alors qu'il entrait dans la cour. Il leva un doigt crochu pour cogner à la porte et se ravisa.
« Allez, frappe, serpent, frappe donc !»
Mais ses doigts retombèrent. Enfin, il sonna. Il entendit une voix qui demandait
« Madame Anne, moi je ouvrir ?»«
Ouvre, ouvre !»«
Qu'est-ce que c'est, monsieur, il y cherche ?»
demanda la femme aux bottes qu'il avait vue arroser le mur. Elle ne l'invita pas à entrer. « Une chambre à louer, » répondit-il.
« Une seconde. Moi, je allais et moi, je demandais à Madame Hannah. »
Elle entra, ressortit l'air farouche et déclara.
« Venez, vous entrez. »
Il entra. Les yeux bleus de la vieille le frappèrent comme un éclair. Elle était assise dans une chaise roulante. Il n'osait regarder ses yeux. Son regard se portait sur le reste de son corps. Il voyait ses membres recroquevillés sur eux-mêmes. « Je n'arriverai pas à en tirer grand-chose, » pensa-t-il. « Un débris qui transforme son corps en galette des rois et s'y colle les membres de peur qu'on lui vole un osselet, elle ne me lâchera même pas un carreau de faïence, à plus forte raison une chambre.
« Qu'est-ce qui vous amène ici ? Il n'y a pas de pancarte de location dehors. »
Les yeux de la vieille sortaient de leur trou et le clouaient sur place.
« Apprenez que je ne laisse pas entrer d'hommes étrangers ici. »
Elle ferma l'un de ses yeux et lui planta l'autre droit au visage.
« Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?»«
Ce sont les chemises rouges. Je suis poète et les chemises rouges m'ont rempli d'émotion. » Il essuya la sueur qui perlait à son front.
Comment ça? Les chemises rouges vous ont rempli d'émotions? Vous n'avez jamais vu de linge qui sèche sur une corde?
L'étranger se racla la gorge pour gagner du temps et aspira profondément. Il mit à contribution tout son talent lyrique, posa sa main sur son cœur et déclara. J'ai vu les manches rouges vides qui tendaient leurs mains vers la rue. Elles s'efforçaient héroïquement de s'évader de l'emprise des pinces à linge qui les étouffaient. Elles voulaient tant atteindre cette rue où un cœur plein d'émotions pourrait enfin battre en elles. Mais la rue leur tourne le dos comme si les malheureuses n'existaient pas.
« Oh oh, quelle envolée !»
La vieille leva vers lui son menton et ouvrit son œil fermé.
« On vous connaît? Vous êtes déjà célèbre ?»
Elle délivra de sa personne l'un de ses doigts et le pointa vers lui.
On n'entend pas tous les jours des paroles pareilles. S'exprimer ainsi sur trois pauvres chemises. Comment avez-vous dit? Qui s'efforce de s'évader de l'emprise des pinces à linge? Et nous autres qui pensions que ce n'était que de vulgaires maillots pendus là contre le mauvais œil. Une fois, on a attaché des ficelles rouges sur la gouttière, mais ça n'a pas marché. Le mauvais œil continuait à patrouiller et à faire la ronde autour de la maison. Alors, on a pendu les chemisiers rouges, mais en attendant, il n'y a rien de changé. La mauvaise chance ne cesse de taper sur la bicoque.
Elle serra ses lèvres minces, puis les desserra.
Poète, on parle de vous dans les journaux? On vous voit à la télé? Quel honneur, un poète sous son toit. Et ces trois filles qui sont en âge et sont toutes libres, et Dieu est grand.
Elle relâcha à nouveau l'un de ses membres et fit signe à Johanna de l'emmener voir le petit de pièce attenant au rez-de-chaussée et ouvrant sur la cour. La bouche close et l'air furibond, Johanna montra aux visiteurs les deux chambrettes, la salle de bain et la cuisinette. Elle regimbait en roumain et ne le quittait pas des yeux. Elle le regardait avec insistance. Elle voulait lui montrer que, pour sa part, elle avait des doutes et n'était pas du tout contente de la légèreté de sa patronne. L'étranger passa l'appartement en revue, ouvrit et ferma les robinets, alluma et éteignit les lampes, observa le plafond et, finalement, déclara « Bon, allons clore le débat !» À leur retour, la chaise roulante était vide. La maîtresse de maison était debout sur ses jambes, haute de taille. Elle marcha vers la fenêtre et en écarta les rideaux d'un geste large. Johanna se signa.
« Madame Hanna, il va faire ça des problèmes. C'est pas bien, vous faites là. »
« Je sais parfaitement ce que je fais, Johanna. Il est très bien, ce type-là. Regarde ces vieilles godasses. Les malins de la police, de l'immigration et de la sécu ne se promènent pas avec des grôles pareilles. Les types des services publics, ils ont des chaussures comme il faut. »
La vieille se tourna à nouveau vers l'homme.
« Alors, comme ça, vous êtes poète, hein ? Feu Yehuda, mon mari, il aurait été bien content de faire votre connaissance. Il aimait la poésie, moi, non. Mais mes trois filles à moi, elles sont instruites. Elles vont sûrement s'intéresser à ce que vous écrivez. Pour de l'instruction, elles en ont. Vous n'avez pas idée de la quantité de cervelle qu'il y a au second. » Ah, s'il pouvait y avoir là-bas autant de chance que de cervelle!
Elle frappa rageusement du doigt sur la petite table à ses côtés. Elle les entendait déjà.
Pourquoi as-tu loué? Tu manques donc d'argent? Qui c'est qui a besoin d'étrangers dans cette maison? Mais cette maison, elle est à moi! Et moi, je suis déjà une grande fille, comme on dit!
Combien de filles avez-vous, Madame Yona? Demanda l'étranger. Une lueur furtive jaillit dans son cœur. Peut-être allait-il ramasser aussi le gros lot dans cette kermesse. Allait-il faire d'une pierre deux coups?
Trois filles et une petite fille. Elles habitent toutes au second.
La vieille femme montra du doigt le plafond où l'on entendait le trottinement de sa progéniture. Le nouveau locataire posa la main sur son cœur et déclara.
Je vous remercie infiniment de m'accepter. « Madame Hanna Yona, je suis sûre que vous ne le regretterez pas et vos filles non plus. »
Il ôta la main de son thorax et la fourra dans sa poche.
« Ça y est, Rafi. Étape numéro 1 franchie. »
Soudain, des pas se firent entendre dans la rue. Johanna sursauta, se joignit les mains sur sa gorge opulente et murmura.
« Ça y est, dans 2 secondes, la police, elle va venir. » Et il y avoir très mal. Pas bien, Madame Hanna. Pas bien, quoi vous l'avez dit, à bonhomme, pas vous le connaissez. »
Elle jeta un regard mauvais à l'étranger.
Donne-lui la clé, Johanna, lui dit la vieille.
Johanna ôta une clé du trousseau qu'elle tenait en poche et la tendit à l'homme avec réticence.
Pour ouvrir, il faut y tourner 2 fois.
Lorsqu'il fut sorti, elle se passa les doigts dans ses cheveux d'or et demanda
« Poète, quoi poète, Madame Hanna ?»
Après avoir pris possession de son appartement, la victime du noyau de pêche se rendit dans la cour. Il aperçut trois jeunes femmes assises sur les marches de l'escalier qui descendaient du second étage. Il se figea sur place et lâcha.
« Pardon ?»«
Quoi, pardon? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour demander pardon ?»
C'était Yardène qui ricanait tout en tortillant son index sur sa tempe.
« Je ne sais pas. Peut-être êtes-vous en conversation privée. Je n'aime pas écouter les gens. »
Il contempla les jambes de Yardène.
Une vraie déesse, se dit-il. Mais quelle pelote de nerfs!
Et qu'est-ce que vous aimez?
Moi, j'aime le silence. J'aime entendre le ronronnement des objets.
Hé, hé! L'interrompit Orna en faisant éclater une boule de chewing-gum.
Et tout en riant, elle ajouta.
Regardez, si vous êtes le type qui cherche les ronronnements des objets, ce n'est pas tellement par ici qu'il faut chercher. Ça ne manque pas de ronronnement dans cette baraque, mais c'est pas ceux des objets. »
Yardène alluma une cigarette et regarda les volutes qui montaient.
« Un coq entre six femelles, ça ne vous fait pas peur? Allez, vous pouvez encore vous rétracter. »
Il se sentait comme un prévenu devant ses juges. Toutes les trois le scrutaient depuis son crâne dégarni jusqu'à ses lacets effilochés. Il baissa les yeux. Il réfléchissait. Trois femmes qu'un nouveau locataire a fait sauter comme trois ressorts, comme si un terroriste avait fait irruption chez elles. Ces trois-là, ce sont les plus coriaces de la maison. Il voyait qu'elles le reluquaient impudemment. « Scrutez, scrutez, pensait-il, vous ne verrez que le vêtement. » Et de ce côté-là, il n'avait aucune honte. Elle verrait bien que sa chemise bleue était neuve. On y remarquait encore les plis réguliers de l'emballage d'origine. Ses habits propres ressemblaient à ceux d'un homme cultivé et rangé. Les godasses seulement étaient éculées, des chaussures grises de fabrication chinoise sans marque. Les lunettes aussi, elles étaient simples, trop petites pour ses yeux. Son père les lui avait achetées quand il était petit. Mais depuis, son visage avait grossi et son père n'était plus là depuis longtemps.
« Allez, va! Pourquoi donc vous êtes venu ici? Il n'y a pas de pancarte de location sur la maison. »
Orna le regardait fixement, le front largement plissé. Elle fit une boule de son chewing-gum. Il se racla la gorge et tenta d'éviter son regard. Il se parlait à lui-même. Elle est un peu lourde, elle est moins jolie que les deux autres, mais ça ne doit pas être facile de la faire marcher. Il ne savait où donner des yeux. Il les leva au ciel avec les vers puérils qui les recouvraient et agrandissaient tout autour de lui. Il disait que cet appartement, c'était le ciel qui le lui envoyait. Et le ciel, il se couvrait des rares nuages de l'été et se refusait à confirmer ou à infirmer ses paroles. Il tourna à nouveau son regard vers l'escalier et déclara qu'il cherchait une chambre à bon marché. Il avait demandé à gauche et à droite. On lui avait dit « Va dans tel et tel quartier. »
« Une seconde !» l'interrompit Yardène. « Vous êtes vraiment poète? Comment vous vous appelez? Voyons si nous n'avons jamais lu quelque chose de vous. »
Elle le passait au crible, les deux genoux s'entrechoquant fébrilement.
« Je suis un poète en gestation, et en attendant, je compte les ombres et j'aide les gens à transformer leurs pensées en chansons et leurs souvenirs en histoires. Mais pour en revenir à la raison qui m'a amené à louer cet appartement... »«
Non, n'y revenons pas !» repartit sèchement Yardène.
Elle jeta une nouvelle bouffée de fumée et la regarda disparaître en haute atmosphère. Cependant, Simona se levait et se dirigeait vers lui, la main tendue.
« Bonjour, je suis Simona, enchantée.
Moi, je suis Raphaël, ou en bref, Rafi. »
Il serra la main qu'elle lui tendait, puis la tourna vers les deux autres.
mais dut la remettre bredouille dans sa poche. Cette Simone, c'est la meilleure des trois, se dit-il. Il demeurait immobile devant elle et ne savait que dire.
Il y a aussi une petite fille dans la maison, pour autant que j'ai cru comprendre.
Comme s'il n'avait pas eu affaire à elle lors de l'aventure du noyau mouillé sur le front.
Vous avez bien compris. Vous la reverrez encore, celle-là. À propos, pour combien la vieille vous a fait signer?
C'est entre elle et moi.
C'est entre elle et lui qu'il dit.
Yarden a souri amèrement.
Regardez, nous ne savons pas exactement ce que vous cherchez, ni ce que c'est qu'un poète en gestation. Mais si vous avez la mauvaise idée de vous en prendre à notre mère ou de l'exploiter, vous aurez affaire à nous.
Moi? Mais quelle idée?
Orna intervint.
Allez, les filles, c'est vendredi.
Elle se leva et les deux autres l'imitèrent. Elles remontèrent l'escalier, échangèrent encore quelques paroles sur la galerie du second et disparurent, chacune dans ses appartements. Le locataire rentra chez lui, ferma la porte et se frappa la poitrine avec satisfaction.
« Ça a marché, mon vieux Rafi. Malgré leur bouille de citron pressé, elles ont avalé ton petit air d'illuminé. »
Il s'amusait lui-même. En fait, cela n'avait pas été si terrible que ça. Elle ne l'avait pas mise à la porte, elle n'avait pas exigé de lui un certificat de bonne conduite, ni avait demandé à lire un de ses poèmes. Debout devant sa fenêtre qui donnait sur la cour, ils se répétaient leurs prénoms. Yardena, Orna, Simone, Yardena. Du coin de l'œil, il voyait les énormes grues qui se profilaient à l'horizon et se disait que ce ne serait pas si difficile que ça. La vitre lui renvoyait son image. Il contempla la ligne courbe qui alourdissait déjà son menton. Peut-être avait-elle contribué aussi à leur faire gober sa fiole de lunatique. Maintenant, il allait boire quelque chose. Il serait d'accord pour se préparer lui-même un bon café. Il ne chipoterait pas sur le nombre des petits gâteaux qu'il allait y tremper. Après ce petit encas, il appellerait Mich à Brochi et lui raconterait tout.
« Ça y est, nous sommes dans la place. Pas tout à fait, mais presque. »
Ainsi, le nouveau locataire s'était levé du pied droit et il était pleinement satisfait de sa première matinée au sein de la famille Yona. Pendant ce temps, Yarden allait entamer sa journée à elle, pleine de rancœur et d'amertume. La petite lui portait sur le système. Elle refusait de mettre un tricot propre et ne voulait que le jaune, qu'on avait mis au linge sale la veille. C'était une championne, cette gosse-là. Elle savait identifier les faiblesses des nerfs de sa mère et s'y glisser avec la sûreté d'un couteau au laser. Elle se mit à piailler et à pleurnicher et, finalement, tira le tricot jaune de la corbeille et l'enfila. Yarden a maugréé.
« Attends un peu, tu vas voir !»
Mais la petite savait qu'il n'y avait rien à attendre et qu'elle avait déjà vu tout ce qu'il y avait à voir. Elle endossa son cartable et sortit, sans que Yarden ne l'arrêtât.
Tant mieux même qu'elle entre en classe avec sa puanteur, qu'on se moque d'elle. Et quand elle reviendrait, toute penaude et rabrouée, elle ne lui lâcherait pas
« Je te l'avais bien dit !»«
Je te l'avais bien dit !»
Elle la laissait trébucher sur toutes les pierres dont Dieu jonchait sa route.
Qu'elle apprenne la vie elle-même!
En quoi elle-même et ses sœurs avaient-elles profité de l'expérience de la vieille? Aucune pierre ne leur avait été épargnée. La petite allait apprendre que le monde était ainsi fait et que le passé foutu des adultes ne vaccine pas les jeunes contre leur fichu passé à eux. Toute seule et à sa vitesse à elle, elle apprendrait que l'expérience des autres vaut moins qu'une chaussette déchirée. Et malgré tout son calme, Yarden sentait parfois sa conscience qui la torturait. Alors, quand elle ne savait comment apaiser la fièvre de ses viscères, elle se jetait sur la gamine et la couvrait de baisers. La petite, telle un conducteur qui sent son véhicule écrasé, attendait patiemment un doigt fourré dans le nez. Elle contemplait les bras des grandes grues au loin et le ciel qui se recroquevillait et se prêtait complaisamment au nettoyage à fond de la conscience maternelle. Cinq femmes, dont les prénoms se terminaient tous en « na », c'était là tout son horizon. Yardène n'avait pas hésité une seconde lorsque la petite avait fait sa soudaine apparition sur Terre et elle lui avait donné deux ou trois des dernières lettres de son nom en l'appelant Dan. L'enfant n'aimait pas son prénom.
« C'est un nom cul !» disait-elle. « L'autre Dan a de la classe. Elle est belle comme Barbie. »
Yardène répondait.
« Bouffe moins de pizza et de frites, ton ventre s'aplatira et tu seras comme elle. »
Dan tripotait sa panse rondouillette, contemplait le ventre plat de sa mère, la peau bien tendue de sa tante Simone et le corsage dilaté d'Orne.
« Je boufferai 10 000 pizzas !»«
Vas-y, 1 000 000 si tu veux !»«
Tu vas la rendre anorexique pour de bon !» faisait Orne. « À 12 ans, il faudra la nourrir avec une sonde. »
En attendant, la fillette n'avait que 7 ans. 12, c'était pour elle comme 20. Et elle agissait selon les prévisions. Elle entrait en coup de vent chez la vieille.
« Mémé, donne-moi des chips !»
Et la vieille ne discutait pas. Yardène en prenait ombrage. C'était vendredi et la vie ne lui souriait pas. Mais elle savait bien que d'ici midi, le vent tournerait et l'existence ramperait devant elle. Elle ne travaillait pas le vendredi. Entre le travail qui est derrière elle et le jour du Shabbat, il y avait un trou qu'elle avait du mal à combler. Elle se levait le matin, se demandait si elle prendrait un café avant de se coiffer, ou si elle retournerait se coucher, ou si elle passerait ses comptes en revue, ou si elle lirait le journal. Et c'était justement le jour qu'avait choisi ce drôle de type, avec ses phrases alambiquées et ses godasses percées, pour se planter là dans la cour. Maintenant, elles étaient toutes passées devant lui, avaient bâillé tous leurs sous et étaient remontées. Orna remarqua. « À présent, il sait que maman roule la sécu et il va la faire chanter. »«
Ça va pas, non ?» répliqua Yardène. « Maman est au nu. » Elle est persuadée que Victor Hugo habite chez elle.
Simona se taisait. Elle suivait des yeux un corbeau qui ne trouvait pas sa place parmi les autres occupants du boulot et braillait d'indignation. Yardène a fulminé contre le silence de sa sœur et contre les croassements de l'oiseau.
« Ferme-la, crétin !»
Elle chercha un objet à jeter sur le corbeau et finalement passa ses nerfs sur Simona.
« Dis donc, tu n'as plus personne à t'attendrir dessus, rien que ce hanneton chétif ?»
Elle jeta sa cigarette, qui s'éteignit dans la poussière de la cour, et prononça.
« Allez, on dissout le monôme !»
Elle rentra chez elle, ferma la porte, ouvrit une fenêtre, et aperçut la tête de Johanna qui sortait de la croisée d'en dessous. Johanna ne commençait pas la journée sans jeter un œil sur le second étage. Il fallait d'abord inspecter l'état des chemises rouges. Pour elle, cela ressemblait à la petite police d'assurance qu'avait contractée en son honneur la société qui l'avait amenée ici. Elle ne se contentait pas de la force de dissuasion des tricots. Elle avait aussi recours à des fils écarlates qu'elle attachait à la cheville de la vieille, au pied de la petite et à son poignet à elle. Les jours de chance, elle espérait avoir sauvé le bien et triomphé du mauvais œil. Alors, elle se mettait à la fenêtre et criait au monde entier.
« Oh, comme ça va mal aujourd'hui !»
C'était sa façon de refroidir la témérité des démons et des mauvais génies. Une fois levée, le matin, elle se contemplait dans la glace et félicitait son créateur de lui avoir donné un corps si imposant et si solide, plein de recoins qui pouvaient abriter tous ses malheurs. La nuit, elle se signe devant les icônes de sa fille Angela et de ses deux petits-enfants et embrassait la plaque de verre qui recouvrait leur sourire. Sa fille est mince encore et, en attendant, son corps lui suffit. Mais si le destin continue à s'en prendre à elle et à la bousculer, elle devra grossir et s'élargir et faire un peu de place à ses malheurs à elle. Le mari d'Angèle lui avait cassé une bouteille sur la figure et l'avait abandonnée, elle et ses enfants.
Un jour, il s'était levé et avait déclaré « Voilà, je m'en vais ». Angela avait montré le coffre à pain en demandant « De quoi vivrons-nous ?» Il avait répondu « Ta mère ». Il avait bien raison. L'argent que Johann envoyait de Jérusalem arrivait dans le petit village au pied des Carpates et Angela le retirait de la banque locale. Johann n'avait pas confiance en la stabilité de la monnaie et ne laissait pas moisir chez elle le salaire hebdomadaire qu'elle recevait de la vieille. Elle déposait tout de suite les billets tout frais au bureau de poste et ils atterrissaient instantanément dans le coffre à pain d'Angela. Cela durait maintenant depuis 5 ans. Qu'allait-il advenir maintenant que ce poète avait fait intrusion chez elle? Son cœur lui disait que le mauvais œil travaillait pour le compte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sociale. C'était bien cet individu qui l'avait amené dans la place. Il fallait le surveiller attentivement et faire attention à ce qu'on disait. Johann avait également mis la fillette en garde.
« Tu ne rien dire à l'homme, tu lui connais pas, et lui pas de notre famille. »
La petite n'avait rien promis du tout. En revenant l'après-midi, elle avait jeté son cartable sur l'une des marches et s'était mise en observation devant la porte du nouveau locataire. Johann entendit le choc du sac sur la pierre et sortit la tête d'entre ses cornichons. Elle voulut s'assurer que les membres de la gamine étaient revenus intacts à la maison et elle ne quitta plus cette porte de l'œil. Ses regards finirent par en avoir raison et elle s'ouvrit soudain. Le locataire sortit de chez lui, vêtu de sa chemise bleue toute neuve et affublé d'une sacoche en cuir pendue à l'épaule. Il posa 2 lentilles foncées sur ses lunettes d'enfant et demanda à la fillette « Comment t'appelles-tu »«
Dan. Et toi ?»«
Raphaël.
C'est ton nom de vieux ?»
Il sourit et pensa « Elle mâche pas ses mots, cette gosse. » « Et en quelle classe tu es ?»«
En 9e. Tu n'as pas de femme ?»«
Pas pour le moment, mais si Dieu veut, cela arrivera. » La petite mâchonna le col de son tricot.
« Il y a des gens qui n'en ont pas. Ma maman, elle n'a pas de mari. Mes tantes non plus, ma grand-mère non plus, et Johanna non plus. Et moi, j'en aurai pas non plus. »
En entendant son nom qui sortait de la bouche de la fillette, Johanna tendit l'oreille pour essayer d'entendre ce qui se disait.
« T'es religieux ?» demanda l'enfant.
« Pourquoi ça ?»«
Tu as dit « si Dieu veut !»
Le nouveau locataire éclata de rire. « C'est une façon de parler, ça n'a rien à voir avec religieux ou pas. » La fillette se leva, s'approcha et l'observa. Elle se rapprocha tellement que son ombre à lui lui recouvrit le pied. La regardant d'en haut, il voyait ses boucles échevelées, la cicatrice rose qui lui ornait le front et les taches sur son tricot. Il pensa que si les choses allaient dans la bonne direction, il ferait peut-être quelque chose pour la pauvrette. Cela réparerait un peu le mal qu'il avait l'intention de faire à sa famille. « Allez, bonne journée !» fit-il en s'en allant.
« C'est pas pour aujourd'hui. »«
Et pourquoi ?»«
Le vendredi, ma maman est toujours mal lunée. »
Elle mâchonna à nouveau son tricot.
« Allez, taille-toi. Pourquoi tu t'en vas pas ?»«
T'en as une langue, alors toi. »
Il gagna le portail et se demanda pourquoi sa bonne humeur était tombée d'un coup comme ça. Il s'était levé avec tant d'entrain et maintenant, il se sentait nerveux et en colère après la fillette, après Brouche et après lui-même. « Même quand tu veux te conduire comme il faut, on ne te lâche pas. » Johann sortit de derrière les concombres, reprit sa respiration et appela la petite.
« Te l'a dire quoi, cet homme ?»
Simone avait assisté à la scène depuis son appartement. Elle traversa sa chambre à grandes enjambées et, de sa fenêtre, le regarda qui s'éloignait. Il s'arrêta un instant, leva ses gros carreaux vers les chemises rouges, eut un sourire de satisfaction et reprit sa marche, tournant à gauche au coin de la rue.
Il descendit la ruelle jusqu'à l'avenue où il disparut dans la foule des passants qui vaquaient à leurs occupations, les mains chargées des emplettes du vendredi. Simone le perdit de vue. Elle continuait d'observer les passants et se demandait « Qu'arriverait-il si, d'un seul coup, tous ces gens-là laissaient tomber leurs paquets et levaient les mains au ciel ? Et si ces myriades de mains tendues au firmament faisaient remonter les cieux au loin ? Peut-être alors la pesanteur perdrait de sa force, toute la poussière des énormes grues se dissiperait à jamais dans les profondeurs de l'infini et ne retomberait plus dans la cour de la maison. Lorsque le peuple d'Israël lève les yeux au ciel, elle ne put se souvenir où cela était écrit. Mais tout cela n'arriverait jamais, les gens ne laisseraient pas tomber leur paquet. N'importe ce qu'il y ait dedans, un journal, un chou ou un chat. Personne ne peut traverser la vie sans se raccrocher à quelque chose. Le téléphone sonna. Elle identifia tout de suite le numéro du correspondant. Elle ne tendit pas le bras vers l'appareil et ne répondit pas. C'était fini depuis 5 ans. Il avait terminé son stage et était passé dans un hôpital du centre du pays. Elle-même continua son travail au même endroit dans cette ville. Elle ne savait pas s'il était marié et avait eu des enfants. Il était chirurgien plastique et elle, oncologue. Il l'avait mise en garde contre ce choix. Selon lui, le service oncologique n'était pas pour elle, elle ne tiendrait pas le coup. La vie lui semblerait un cancer démesuré. Elle avait répondu qu'il exagérait. Elle avait répondu du tac au tac. « Et toi, Michael, de la chirurgie plastique ?» Un jour, tu seras riche comme Crésus. Tu fais erreur. Je n'utiliserai jamais le scalpel pour faire gonfler un sein ou extraire de la graisse d'une hanche. Elle n'avait pas discuté. D'ailleurs, tout était fini entre eux et elle n'avait nulle intention d'influer sur son avenir. Que lui importait sur qui il allait lever son scalpel et à quel endroit il allait le planter? Et à part ça, Simone, nous sommes jeunes, non? Si ça ne marche pas, on passera à autre chose. Tu ne penses pas ? » Tout en parlant, il tenait une tranche de gâteau entre deux doigts. Le chocolat gicla sur la serviette. Il lécha la blessure. « Tu en veux un bout ?» Elle refusa. Cela faisait pas mal de temps qu'il ne mangeait plus dans la même assiette. 5 années. Combien de milliers de pulsations son stéthoscope avait-il compté depuis ? Et des milliers de respirations, lourdes, faibles, chétives et renouvelées. Les pruniers du jardin n'étaient encore que des arbrisseaux luttant contre les intempéries. Dan ne savait pas encore dire « ferme-la » ni « quoi de neuf ». On croyait les jours de la vieille compter. Le visa de travail de Johann était encore en règle. Le ministère et la sécu n'étaient pas encore l'ennemi public numéro un. Les entrepreneurs de tout poil venaient déjà frapper à la porte, mais les grues n'étendaient pas encore leurs immenses bras dans le quartier et ne jetaient pas encore la poussière au ciel. Et la lune était encore lisse comme un derrière de bébé. Et tout d'un coup, téléphone. Et la vie s'arrêtait. Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas avouer qu'il avait eu raison, que le département d'oncologie, ce n'était pas pour elle et qu'à vrai dire, elle était passée à la gérontologie. Sur un point, il avait tort. La vie n'était pas si grande que ça. Peut-être l'est-elle encore pour le corbeau qui venait de prendre son vol, mais pour Fortuna, par exemple, la malade de la chambre 7, la vie se réduisait à un vilain streptocoque. Et quand l'infirmière déclarait « Ah, quel beau caca, Madame Fortuna !» alors la vie ne voulait plus rien dire du tout. Elle écouta le message. « Salut, Simone. Je vais passer chez vous tantôt. » C'était la même voix et puis le même Simone à la française comme autrefois. « Chez vous ?» Il veut sans doute dire au département d'oncologie. Comment saurait-il qu'elle avait quitté ? L'aurait-on invité à venir trancher un bout de chair infectée ? Venait-il réparer une gaffe faite sur une mâchoire tourmentée ? Devant son miroir, elle comptait les rides qui s'étaient ajoutées à son visage. 2 de taille moyenne au milieu du front.
une profonde entre les sourcils et les débuts des plis qui sillonneraient bientôt son cou. Pas trop grave pour le moment. Pas la peine de mesurer le temps par l'absence de collagène. Elle regarda aussi ses paumes de main dont la topographie trahissait déjà l'âge. Elle lui envoya un texto. « Bienvenue dans nos parages. » Des clameurs retentissaient d'en bas.
« C'est la maison de mémé, c'est pas la sienne !»
La petite piaillée et Yardène, courbée sur elle, la secouaient par l'épaule.
« Pourquoi es-tu montée là-dessus? Qui t'a dit de monter ?»
Sous la fenêtre du locataire, un caisson s'était renversé et avait flanqué l'enfant par terre.
« Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombée sur la tête? Il n'y a que les bandits qui entrent par la fenêtre. Tu veux que la police se pointe ?»
Yardène était remontée à bloc.
« Pas sur la tête, sur le genou !»
La petite leva une jambe et montra à sa mère une plaie toute fraîche.
« Tu n'as que ce que tu mérites !» conclut Yardène en se relevant.
« Bon, c'est fini. Enough is enough !»
Elle caressa les boucles éparpillées de sa fille et continua.
« Marche, Johanna va te rincer le genou et te donnera à déjeuner. »
Elle se baissa à nouveau et posa un baiser sur le front ruisselant de sueur de l'enfant. Elle eut un geste pour essuyer ses lèvres, mais le réprima. La petite était si profondément vexée qu'elle sentit un pincement aigu sous son tricot.
« Viens, Danouchka, d'abord je te fais un bain, la tête, les pieds, les mains et tout. »
De l'autre jambe, la fillette donna un coup de pied au caisson et se remit à pleurnicher.
« Si, c'est la maison à mémé, je rentrerai où je veux. Si, c'est la maison à mémé, c'est vrai. »
Yardène consulta sa montre et attendit que le tumulte se calme. Debout dans la cour, elle regardait sa fille qui s'éloignait, s'essuyait les yeux après le tablier de Johanna et trottinait avec elle, ses petits doigts blottis dans la grande main de la Roumaine. Yardène n'avait pas la force de manquer au besoin de voir et de se montrer au café. Elle se sentait incapable de contracter l'immense Yardène qui vibrait en elle et de laisser place à l'autre. La veille, Shaoul, le type des commandes, lui avait lâché.
« Ton égo fait des séquelles. Tu devrais voir un oncologue. »
Et Mira, de la réception, d'ajouter «
Shaoul, t'as pas idée comme t'as raison. »
Si elle en avait la force, elle serait restée pour passer le shampoing à sa gosse, pour lui panser sa blessure et pour l'aider à finir son puzzle. Elle voulait courir après elle, arracher la petite des mains de Johanna et lui crier
« Tu as une maman, Dana. Viens, je vais faire tout ce que les mamans font pour leurs enfants. »
Mais la silhouette qui se reflétait sur la vitre de l'appartement du nouveau locataire lui renvoya l'image de la plus pure perfection. Vraiment, elle avait l'air extra. Personne ne lui aurait donné 39 ans.
Mon Dieu, quelle force il y a dans la beauté!
Mais Dieu n'attend pas éternellement, et ce salaud de temps, il vous tombe dessus quand on s'y attend le moins.
Elle aurait dû enfanter cette petite au terme de sa beauté à son déclin, au moment où la rue ne la verrait plus. Elle aurait dû l'enfanter. Et pourquoi donc? Elle n'avait même pas essayé de savoir qui était le père. Quand elle avait compris qu'elle était enceinte, il y avait déjà plusieurs suspects et elle n'en fit pas une histoire. Elle se sentait merveilleusement bien. Le ventre n'avait pas grossi et sa taille n'avait pas souffert. La vieille était encore solide et vaillante et se trouva là quand il fallut. Simone et Orna ne se mêlèrent pas de l'histoire, mais ne se portèrent pas non plus volontaires pour l'assister. Toutes deux s'occupaient de leurs études et nourrissaient de grands projets. L'une était à la faculté de médecine et l'autre apprenait la chimie. Elles s'habituèrent aux cris du bébé, laissèrent faire. Seulement, quelques jours avant l'examen d'anatomie, Simone acheta des boules Kies de façon à pouvoir rabâcher sans encombre la structure du squelette et de ses membres. Aussi, la vie continua-t-elle avec la cagnotte que Yardène y avait ajoutée. La petite recevait son dû en son temps. Il y avait toujours quelqu'un pour se pencher sur le berceau pour voir s'il ne sentait pas. Et pendant que les autres se prosternaient, Yardena faisait son chemin et devenait la responsable des relations publiques de l'hôtel où elle travaillait. Elle se percha sur des hauts talons et se munit de tuniques à boutons. Son anglais s'améliora et elle fit des connaissances. Elle achetait et recevait des parfums de qualité. Elle partait pour des congrès et prononçait mieux les termes « check-in » et « check-out » que le nom de sa gosse. Elle reçut encore de l'avancement et elle fut nommée directrice du service de relations publiques de tout le réseau. Le ciel s'élevait devant elle et son univers s'élargissait de jour en jour. Mais sa fille aussi grandissait. Elle n'eut bientôt plus besoin de regarder par la fenêtre de la tour de verre où elle vivait pour voir les cieux s'assombrir. Maintenant qu'elle avait tant obtenu, elle avait aussi beaucoup à perdre. Elle cessa de se moquer du mauvais œil et à rire des chemises rouges. Mais les talismans n'empêchaient pas la fillette de grossir, de devenir insolente et de préférer les vêtements sales. Yardena ne se demandait pas si elle aimait la petite ou non. Elle n'aurait rien pu faire de la réponse. Elle faisait confiance au temps. Les dégâts étaient encore mineurs et on pouvait encore réparer. Après tout, elle n'avait que 7 ans. Elle resterait encore longtemps petite fille. Elle avait oublié la sueur du front de l'enfant sur ses lèvres. Elle passa sur elle une langue humide. Elle perçut des cris provenant de la salle de bain de la vieille, mais ne put savoir si c'était des pleurs ou des rires. L'essentiel, c'était qu'on s'en occupait, qu'on lui faisait prendre un bain. Ensuite, on la coifferait, on lui donnerait à manger et on la ferait asseoir devant la télé. Béni soit le dieu des Johanna qui les a créés si pauvres dans leur fichu pays, mais assez gaillardes pour émigrer à l'étranger pour y chercher leur pain quotidien. Elle n'avait pas encore bougé quand Orna fit son apparition dans l'escalier en jean serré à la taille et en sandales plates. Cette dernière fit cliqueter les clés de sa voiture et demanda « Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée? Elle braille comme si on allait l'égorger. » Yardena observa le pantalon de sa sœur qui mettait ses hanches en valeur et s'informa. « C'est pour où? Je vais inspecter l'état de mes propriétés. » Le portable d'Orna sonna. Elle se suspendit à l'appareil et tensa un de ses subordonnés. « Comment ça, c'est pas prêt? Tu as écrit le rapport? Comment ça, non ?» Quelle lourdeur et quelle grossièreté, se disait Yardena. Elle ferait mieux de surveiller son ventre, de s'acheter des vêtements comme il faut et de se farder. Et puis, qu'elle n'en fasse qu'à sa tête. D'ailleurs, elle ne m'écouterait pas. Elle sortit de la cour de fort mauvaise humeur. Une bonne cigarette, un mot aimable sur son allure, tout ça lui calmerait un peu les nerfs. Quelle misère! C'était si lamentable que, cette fois, elle allait mettre des bornes. Avant de s'installer dans une chaise du café, elle achèterait quelque chose à la gamine, une balle, un bracelet, une brochure à colorier, quelque objet durable. Orna, par exemple, elle s'achetait un appart en dur immobilier. Il y aurait maintenant au monde un espace clos de 4 murs à son nom. Et pour elle, Yardena, tout était précaire et fugitif. L'hôtel, le gîte et la route entre les deux. En bref, un asile nocturne bien décoré. La trêve fugitive des draps dans cette course folle qu'on appelle la vie. Un jour viendrait où un tiers de l'immeuble de la vieille serait à elle. Mais à ce train-là, elle ne verrait pas un sou avant l'âge de 60 ou même de 70 ans. En attendant, la vieille se portait comme un charme et faisait la nique aux grues, à la sécurité sociale et à tous ceux qui lui voulaient du mal. C'était une vraie bombe à retardement qui faisait la guerre à la vieillesse et menait par 1-0. Orna continuait à réprimander son subordonné et exigea qu'on respecte les horaires. Elle fit encore cliqueter les clés de la voiture, planta son regard sur ses sandales et proféra. « Tu termines ça aujourd'hui, tu m'entends ?» Elle sortit à son tour d'un pas vif et rude, prête à bousculer tout être humain qui oserait troubler la plénitude de l'existence, perturber le rythme de la production ou retarder la livraison des puces qui sortaient des salles stériles de l'usine. C'est comme cela qu'elle agissait, sur la route comme devant les machines sophistiquées. Pour elle, il n'y avait ni panne mécanique, ni force majeure, ni ciel. Seule comptait la faute de l'agent humain. Elle s'installa au volant de la Toyota climatisée et se dit « J'ai mis la zizanie dans le shabbat de ce technicien. Maintenant, il rampe sous le fourneau et cherche la fuite tout en lâchant à son collègue « Cette chef de groupe, il lui faut d'urgence un mâle. » Elle mit le moteur en marche mais ne débarra pas. C'était vrai, elle avait besoin d'un homme, mais rien ne pressait, cela pourrait venir en son temps. Elle se regarda dans la glace du pare-soleil qu'elle claqua vivement au plafond. « C'est comme ça !» se dit-elle, comme constatant un état de fait immuable sur lequel il ne fallait pas perdre son temps.
« Orna ! Orna ! Où tu vas ?»
s'écriait la petite de Yarden, penchée à la fenêtre.
« Tu veux venir ?»
répliqua Orne, qu'il regretta immédiatement. Mais l'enfant s'était déjà arraché à la croisée et une porte avait été claquée. Le gravier du sentier craqua sous les petits pas des sandales. La portière s'ouvrit et la petite se jeta sur le siège arrière, tout en mettant la ceinture sur elle. Johann arrivait en courant.
« Danucha, où tu allais ? Tu demandais à Orne ? Elle peut-être veut pas te prendre ?»«
Elle veut bien !»
répondit l'enfant, dont le visage sentait encore le shampoing d'adulte. La voiture démarra. Johann releva les pans de son tablier et leva les yeux sur les chemises rouges. Une pousse de lierre les menaçait dangereusement. Elle eut peur. Encore un été passé sans qu'elle s'en aperçoive. Où est-elle donc ? Et où étaient les Carpates ? Et la maison ? Et Angela ? Et la véritable vie ? Elle arracha une touffe de feuilles mortes collées à la gouttière et passa la main tout au long du tuyau, tout en tirant à elle la plante récalcitrante qui s'y accrochait. Debout sur la pointe des pieds, elle déchiquetait feuille par feuille tout ce qui passait à sa portée, tâchant d'effacer de son mieux les signes de l'automne. Elle s'étirait de tout son long, cueillant et déplumant de toutes ses forces les outrages du temps. Enfin, elle écrasa de la semelle les feuilles qui s'amoncelaient sous elle et allait chercher un balai et un escabeau lorsqu'elle aperçut le nouveau locataire qui suivait ses gestes debout sur le trottoir. Elle faillit se signer tant elle eut peur, mais elle se ravisa. Elle n'avait pas le droit de s'effrayer. Elle devait faire une mine de légale munie d'un permis de travail en règle.
« Ça fait beaucoup de salle et Madame Hanna n'aime pas !»
dit-elle en poussant du pied le tas de feuilles mortes contre le mur. « On peut vous aider ?» demanda-t-il.
« Non, non, j'ai fini, s'il vous plaît !»
Elle lui fit signe de passer devant elle pour entrer. Elle ne voulait en rien avoir affaire à lui et ne comprenait pas pourquoi Madame Hanna cherchait des ennuis et le laissait entrer chez elle. Elle allait changer à tout le monde les fils rouges qu'elle leur avait attachés aux mains et aux pieds. Il fallait donner un coup de pouce à la chance. Angela devait faire réparer les fenêtres avant l'hiver et il fallait mettre à Nicolette un appareil dentaire. Elle avait besoin d'argent et avec l'entrée de ce type à la maison, allait savoir si les bandits de la police de l'immigration ne feraient pas bientôt leur apparition. Elle passa ses doigts dans ses cheveux blonds. Il fallait encore oxygéner les racines blanches. Elle se moquait bien d'être belle ou non, mais elle ne voulait pas être vieille. Elle avait déjà 60 ans, mais avec l'oxygène, on lui en donnait à peine 50. Elle faisait tout elle-même, la teinture, le frisé et la coiffure. C'est dommage de jeter de l'argent pour des cheveux que l'on va mettre à la poubelle dans 2 mois. Parfois, le dimanche, Georgette arrivait et lui arrangeait un peu la tête. Alors, elle mettait sa robe noire et blanche et elles allaient ensemble à l'église roumaine. Le locataire entra, mais Johann resta dehors. Elle attendrait pour reprendre sa contenance et calmer ses nerfs mis à bout par sa patronne qui avait fait entrer cette calamité dans la maison, comme si elle n'avait pas assez de problèmes sans ça. C'est vrai qu'il était sympathique et poli, mais tout le monde allait trinquer. Il n'y avait pas de cadeaux gratuits dans ce bas monde. D'ailleurs, elle se demandait ce qui passait dans la tête de Madame Anna. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Cela faisait 5 ans qu'on mangeait du poulet bouilli, et voilà-t-il pas qu'elle lui avait dit de le remplir de riz et d'y ajouter des pruneaux ? Et elle remplissait la volaille à la faire craquer, et puis on lui avait dit d'ajouter un trait de vin à la cuisson, et aussi des amandes, parce que ce soir, on ferait le kidouche, la bénédiction du Shabbat. Madame Han n'avait jamais fait grand-chose pour le bon Dieu, rien même, à vrai dire. Et maintenant, on allait faire le kidouche. Johann allait parler à Simone, elle était médecin des vieux, elle saurait bien de quoi souffrait sa mère. On devrait peut-être bien lui donner des vitamines, des sels minéraux, quelque chose, quoi. Et puis, elle avait invité ses 3 princesses à dîner. Il y aurait du potage, du poulet farci et du gâteau aux pommes. Yarden avait demandé « Qu'est-ce qui t'arrive, maman ? C'est en l'honneur de Victor Hugo ?» Orne avait râlé. « D'accord, maman, mais sans cérémonie, veux-tu ?» Quant à Simone, elle avait simplement dit « D'accord. » Tout marchait trop bien pour ces 3 filles-là. Si elles avaient dû s'offrir des persiennes et un dentier, elles se seraient passées du dîner. Il n'y a pas de justice sur terre. Peut-être Dieu avait-il diffusé le sacré en quantité suffisante, mais au lieu de le répartir équitablement, les hommes essayaient de se tailler la part du lion. Ce n'était pas qu'elle regrettât Ceausescu, non, mais il y avait quand même du bon dans le système. Personne ne mourait de faim et l'État payait les soins dentaires. C'est vrai que l'or des dents ne dépassait pas les 14 carats, mais cela suffisait pour manger ce qu'on avait à manger. Elle arracha encore quelques feuilles qu'elle fourra dans son tablier qu'elle alla vider dans la poubelle. Une fois de plus, elle se passa les doigts dans les cheveux et se massa le crâne pour se rafraîchir la mémoire. Que voulait-elle faire déjà ? Ah oui, changer les fils rouges des mains et des pieds. C'était urgent. Le soir même, Madame Anna Iona siégeait au bout de la table en robe noire, une dentelle blanche autour de son cou amaigri. Ses yeux bleus brillaient d'un éclat rouge, comme le fil qu'on lui avait mis à la patte. Rayonnante, elle passa en revue ses 3 grâces qui avaient consenti à descendre. 2 d'entre elles faisaient la tête, et la 3e était grave comme une guerre latente. La petite était debout à côté de sa mère, Johanna à droite de Madame Hanna, et le nouveau locataire à sa gauche, le verre de vin entre ses doigts délicats d'employé de bureau. Au milieu de la table trônait le coq, couché sur le dos et les pattes en l'air, bien doré, bien rôti et tout couvert d'amandes. Le locataire farfouilla dans sa poche et en tira une calotte de soie blanche. La gamine porta la main au sein des seins et se mit à faire pédaler le poulet entre ses petites mains. « Dana ! » s'écria Yarden. Les doigts ruisselaient d'un liquide gluant et jaune, et on eût dit que le croupion du poulet éclatait de rire. Orne prit une profonde respiration, et Simone tout sauta. Enfin, le locataire procéda à la lecture du kidouche.